En République démocratique du Congo, ce vendredi débute le procès de François Béya, l'ex-monsieur sécurité de Félix Tshisekedi, le président congolais. L'homme est accusé de complot contre le chef de l'État. 4 mois après avoir été arrêté, François Béya comparaîtra devant la haute cour militaire congolaise ce vendredi 3 juin. D'abord entouré d'un certain mystère, l'affaire qui implique l'ancien conseiller donc sécurité du président Félix Tshisekedi se précise. Il s'agit donc d'une affaire relevant de la sûreté de l'État. Une matière de ce genre est de la compétence exclusive de l'Agence nationale des renseignements ANR. Il n'est pas dans les habitudes de ce service de communiquer sur ses activités. Toutefois, dans l'état actuel des choses, on peut affirmer que les enquêteurs disposent d'indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale, comme l'avait déclaré quelque temps après l'arrestation de Béya Kasongo Mouema, donc le porte-parole du chef de l'État congolais. C'est en effet de complot contre la vie ou la personne du chef de l'État qui a accusé François Béya. Selon la presse congolaise, des officiers de l'armée et de la police sont cités à comparaître, tous accusés de complicité. Arrêté le 5 février dernier, François Béya avait été détenu donc dans les locaux de l'ANR avant d'être transféré le 4 avril à la prison centrale de Makala. Parmi les reproches faits à François Béya, celui d'avoir créé un sous-commissariat non loin de sa ferme de Mitendi, mais également d'être à l'origine d'un centre d'entraînement qui avait pour objectif de former un commando. C'est un véritable casse-tête pour le président Félix Tshisekedi. Nombreuses sont les voix qui se sont élevées pour dénoncer les conditions de détention de Béya. Pour les spécialistes du Congo, cette affaire est avant tout une guerre de palais. Or, l'affaire doit également mettre en exergue un autre pan de l'histoire de la République démocratique du Congo, l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Selon les enquêteurs de l'ANR, Béya n'a pas coopéré au moment du procès de la mort de l'ex-président congolais. En 2003, une trentaine de personnes avaient été condamnées, parmi lesquelles l'ex-directeur de cabinet du patron des renseignements Georges Leta ou le conseiller spécial en matière de sécurité de Kabila, Constantin Nono Lutula. Selon le document de la haute cour militaire consulté par plusieurs médias, les co-accusés sont visés pour des faits s'étalant de l'année 2020 au 4 février 2022. Tous sont accusés de complot. Comme en François Béya, plusieurs hautes figures congolaises, le brigadier Tonton Twadi Sekele, le secrétaire particulier de Béya, Guy Vanda ou encore le colonel David Sikapa, donc devront répondre aux accusations. Le 3 juin, c'est tout un pays qui suivra une affaire très médiatisée dont les contours restent toutefois encore flous. Le procès qui démarre demain donc, devrait apporter des réponses à l'implication de Béya dans ce présumé complot contre Félix Tshisekedi. La République sœur de la Mauritanie s'est engagée devant une délégation onusienne à sanctionner les ennemis de la paix au Mali. Elle prévoit entre autres l'interdiction de voyage et le gel des avoirs de toute personne ou entité menaçant la paix et le retour de la stabilité au Mali, conformément aux dispositions du Conseil de sécurité. Pour veiller à l'application de la décision 2374-2017 du Conseil de sécurité des Nations Unies relative à l'interdiction de voyage et le gel des avoirs des personnes ou entités menaçant la paix au Mali, une délégation onusienne s'est entretenue le lundi 30 mai avec le ministre mauritanien de la Défense, Hanena Ould Sidi. Lors de cette rencontre, les deux parties ont échangé, entre autres, sécuritaires sur les frontières avec le Mali, la situation des réfugiés sur le territoire mauritanien et l'activité des réseaux de trafic et du crime organisé. Concernant les mesures de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies dans la décision 2374-2017, le ministre mauritanien en charge de la Défense a réaffirmé devant la délégation onusienne la détermination de son pays à adopter des sanctions contre toutes les personnes qui menacent la paix et la stabilité au Mali, conformément à la volonté de la décision 2374-2017 du Conseil de sécurité. Cette disposition prévoit non seulement l'interdiction de voyage à toutes les personnes ou entités qui menacent la paix, mais aussi elle autorise le gel de leurs avoirs en dehors du sol malien. une mesure forte qui contribuera sans nul doute à lutter efficacement contre l'insécurité dans tout l'espace sahélien. Le terrorisme n'ayant pas de frontières, beaucoup d'hommes armés se cachent très souvent dans un pays hors de leur cible pour commanditer ou mener des attaques. Et c'est dans ce cadre que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté ces dispositions pour réduire au mieux la marge de manœuvre des groupes armés terroristes. Les voisins donc du Mali doivent impérativement montrer leur soutien envers le peuple malien et son gouvernement, car le pays, le Mali, donc, est devenu le rempart contre l'impérialisme, et ce pays montre qu'au plus les pays d'Afrique se soudent et au moins les Occidentaux ont de l'emprise sur l'Afrique. Au Mali, Bamako a contourné les États-Unis. L'affaire de l'aéronef qui avait contribué à crisper les relations déjà tendues entre le Mali, la France et les alliés. Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a effectué entre août et septembre 2021 plusieurs déplacements aux États-Unis pour tenter de comprendre les raisons du blocage de cet appareil volant. Mais Bamako, depuis le mardi donc 31 mai, a enfin accueilli le CASA C-295, selon un communiqué de l'armée malienne. L'avion de transport militaire FAMA, longtemps bloqué à l'usine en Espagne, vient enfin d'atterrir à l'aéroport international de Bamako-Senou le mardi 31 mai, aux environs de 19h45, a fait savoir un communiqué de l'armée qui promet plus de détails dans les jours à venir. Le CASA C-295 a été acheté par l'État du Mali sur fonds propres chez le constructeur européen Airbus et stationné en Espagne car n'ayant pas reçu de transpondeur, un appareil de guidage dont la licence est américaine. Depuis, Washington a motivé son refus de délivrer l'objet de complément par un soupçon d'utilisation d'enfants soldats au sein des groupes armés pro-gouvernementaux et a exigé que le GATIA, donc les groupes armés indexés, signent l'acte d'engagement de ne pas recourir aux enfants soldats. Dans une interview sur la question, le ministre Abdoulaye Diop a déclaré que l'État malien n'est pas responsable des activités des groupes armés. En attendant sa réception officielle, l'atterrissage de cet aéronef destiné à des fins civiles sur le tarmac de Bamako-Senou est perçu par bon nombre de personnes comme une victoire des autorités maliennes de Koulouba, car le ministre Diop a souligné à maintes reprises que derrière le blocage de cet appareil, il y avait une volonté étrangère d'empêcher les forces armées maliennes de s'équiper de façon adéquate. Suite également au rapport fallacieux de la MINUSMA, les autorités de Bamako ont également répondu. Le Mali a nié les allégations d'un rapport de l'ONU, donc selon lesquelles son armée nationale aurait commis des violations des droits humains. Un rapport de la mission de l'ONU dans le pays, la MINUSMA, avait publié donc, et mis en évidence des violations flagrantes des droits de l'homme par l'armée malienne entre janvier et mars de cette année. Il a attribué au FAMA donc une augmentation exponentielle des abus, y compris des exécutions sommaires et des disparitions forcées, dans son rapport trimestriel du 26 mai. Mercredi, le ministère des Affaires étrangères du Mali a publié une note de service offrant des réfutations détaillées à diverses parties du rapport de l'ONU. Ces allégations sont très souvent fastidieuses, non recoupées, rapportées de manière non contradictoire et ne sont étayées par aucune preuve tangible, a-t-il déclaré. Le ministère donc a déclaré que les allégations visaient à ternir l'image des forces de défense et de sécurité et à les discréditer auprès de la population et de la communauté internationale. Le Mali est en désaccord avec les agences de défense des droits à cause des rapports croissants de prétendus abus commis par les FAMA et donc avec la coopération des soldats russes. Des centaines de civils auraient été tués dans des opérations antiterroristes conjointes FAMA-Russie qui ont débuté en décembre dernier alors que ce n'étaient pas des civils qui ont été tués, mais bien des terroristes. D'ailleurs, l'opération antiterroriste des FAMA continue. L'armée a annoncé avoir neutralisé 31 terroristes dont des responsables recherchés, notamment Abu Yahya Salahine, adjoint de l'émir de la Katibat, ainsi que le chef de base dans le secteur de Niaki, dans une frappe contre un camp terroriste situé à 3 km à l'ouest du village de Serma, dans la commune de Boni, dans la région de Douenza. Les FAMA ont réagi dans les actions aéroterrestres et à une embuscade complexe sur l'axe Gossi-Gao, cet après-midi avec un bilan provisoire de 2 morts et 9 blessés côté Fama, avec 2 véhicules détruits par des engins explosifs improvisés, et du côté ennemi, 7 terroristes neutralisés, a annoncé le colonel Mariam Sagara, directrice adjointe de la direction de l'information et de relations publiques de l'armée. Et d'ajouter que sur la base de renseignements précis reçus, les forces aériennes, donc Fama, ont mené dans la matinée du 27 mai aux environs de 6h une frappe contre une base terroriste située donc à 3 km à l'ouest du village de Serma dans la région de Douenza. Le bilan de cette frappe fait état de 31 terroristes neutralisés, dont des responsables recherchés. Le colonel Sagara, donc la directrice adjointe de la formation et des relations publiques des armées, a expliqué que les terroristes, dans de multiples actions désespérées, ont ciblé les populations civiles comme suite. Massacre des chevaux des paysans dans le cercle de Djéné, abus et menaces constatées sur les populations à Youwarou et à Tara, restriction des mouvements des moyens de transport sur le tronçon Douenza-Boni, abus sur les forains dans la foire d'Isseyé, dans le cercle Mondoro. Elle affirme entre autres que les priorités opérationnelles ont porté sur les actions de sécurisation des populations et de ravitaillement des emprises Fama. Ce sont donc les groupes armés qui s'attaquent aux civils et non l'armée malienne. Et quoi qu'il en soit, et peu importe les rapports établis par l'ONU concernant des prétendues exécutions de civils par les Fama, la population malienne ne croit plus en des instances étrangères qui n'appliquent que la politique de 2 poids 2 mesures concernant les pays africains qui se soulèvent et qui font face à l'impérialisme. Plus personne n'est dupe.
L'Iran se dit prêt à envoyer une aide médicale et le vaccin anti-Covid-19 au Kenya. Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian a exprimé jeudi la volonté de Téhéran d'envoyer une aide médicale humanitaire telle que des vaccins contre le Covid-19 au Kenya. Amir Abdollahian, lors d'un appel téléphonique avec la secrétaire du cabinet des affaires étrangères du Kenya, Rachel Omamo, évoquant l'avancement du processus de tenue d'une commission mixte des 2 pays, a souligné l'importance des relations avec l'Afrique, notamment le Kenya. Il a également souligné la nécessité de créer une synergie entre la République islamique d'Iran et le Kenya sur certaines menaces communes sur la scène internationale, telles que le terrorisme et la piraterie. Il a souligné l'importance de la coopération entre les 2 pays dans les instances régionales et internationales, notant qu'il existe un grand potentiel pour élargir les relations dans tous les domaines, y compris le commerce et le secteur privé entre les 2 pays. Pour sa part, Omamo a souligné la position importante de l'Iran et a appelé au développement des relations entre les 2 pays et a exprimé l'espoir que la tenue de la commission économique conjointe développerait les relations Téhéran-Nairobi. Elle a souligné que le développement de la coopération entre les 2 parties dans les instances régionales et internationales est mis en avant autant que possible. Huawei intensifie ses efforts pour recruter de nouveaux talents dans le domaine des technologies de l'information et de la communication au Kenya. L'entreprise chinoise de télécommunications Huawei a déclaré mercredi qu'elle avait intensifié ses efforts pour recruter davantage de professionnels des technologies de l'information et de la communication au Kenya, notamment en lançant une campagne nationale de recrutement de nouveaux talents locaux. Fiona Pan, directrice adjointe du département des affaires publiques de Huawei en Afrique de l'Est, a déclaré que sa société avait en ce moment 35 postes à pourvoir, plus de 15 autres postes chez ses partenaires. Ces postes concernent à la fois des stagiaires et du personnel permanent. Elle a précisé que le secteur des technologies de l'information et de la communication continuait à enregistrer une croissance remarquable et que la demande de professionnels qualifiés dans tous les secteurs productifs resterait élevée dans les années à venir. Abednego Kamandi, principal responsable éducatif au ministère de l'Éducation, a déclaré que le secteur des technologies de l'information et de la communication était l'un de ceux qui connaissaient la croissance la plus rapide et offrait en outre des opportunités d'emploi dans des entreprises comme Huawei. L'armée malienne s'offre son deuxième avion cargo militaire. L'armée malienne a annoncé l'acquisition d'un deuxième avion cargo tactique militaire. L'information a été rendue publique via un communiqué de presse publié sur le site internet des forces armées maliennes le mercredi 1er juin. Selon l'armée malienne, l'achat de cet avion tactique entre dans le cadre de la montée en puissance et du renforcement des capacités des forces armées maliennes et il a été acquis sur fonds propres par le Mali auprès de la société Airbus Défense, fait savoir la note d'information.